Hey, merci Gab, plein d'éditorial aujourd'hui, j'aimais ça. C'était le top de sport à Boulevard 102.1. C'est complet pour ce soir. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Thank you, Nate.
Hey, plaisir, à demain.
À demain.
Bye.
14h, puis 7h45 dans le Pit Stop. Marceau s'en vient. Salut.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi. Et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h45. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là, mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes en espérant que tu aies passé une belle journée. Météo pour ce soir, juste avant de te présenter mon invité de la soirée, ce sera un minimum de moins 1 avec le refroidissement éolien, ça va être une température ressentie de moins 7. Ce sera nuageux avec des probabilités d'averses à 40%, pardon. Donc des averses de neige, c'est ce qu'on nous mentionne au courant de la nuit. Pour ce qui est de demain mardi, ben là ce serait nuageux avec un maximum de plus 3 degrés. Et mercredi, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de plus 2 degrés. Mon invité de la soirée, Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice, qui est maintenant chez bellemareavocat.ca. On parlait de plein de dossiers qui touchent l'actualité. On part ça à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Marc Bellemare, spécialiste de la SAC, de l'IVAC, de la CNSST, en ce lundi soir 17 novembre. Comment allez-vous, cher ami?
Je vais très bien. Je suis reposé et prêt à entreprendre une nouvelle semaine avec les auditeurs.
Ah, et moi, de mon côté, je vais comme le Canadien va et comme mes pneus d'été vont actuellement là, dans la neige. Ça va pas, ça va coussi coussa, je peux vous dire. Le Canadien, ça va pas super bien. Mes pneus d'été, ben, j'ai mon rendez-vous le 26. Je peux vous dire qu'en fin de semaine, j'étais pas très fier de moi. Là. Je devais prendre mon véhicule, puis ben, contrairement aux autres qui étaient capables de rouler à 100 km/h, ben, moi, sur l'autoroute, j'étais à 75-80 km/h avec des pneus d'été neufs. Je filais pas fort.
Ouais, j'espère que tu t'es senti coupable parce que ça n'a vraiment pas de bon sens. Écoute, c'est vrai que cette année, on a un hiver un peu précoce. Là. Ça arrive d'un coup. Là. La semaine passée, quand ça a tombé, je me suis dit, bon, c'est un cas isolé, ça va fondre. Ça a presque fondu. Mais là, ça revient presque tous les jours. Hein.
Ouais.
Alors, surtout dans la région de Québec, là, pour les gens de Montréal aussi, ça a tombé beaucoup, semble-t-il, hier, d'après ce qu'on me raconte. Moi, j'étais avec ma fille en fin de semaine qui vit à Montréal et qui a retourné un peu péniblement hier en fin de journée. Alors, ça prend des pneus d'hiver. On est au Québec.
On est au Québec, ici, comme dirait l'autre.
Ouais, il ne faut pas se faire mal parce qu'il y a des accidents puis des blessés. Ça vient chez Bellemare Avocat. Là. C'est toujours des cas malheureux.
Ouais. Avez-vous des joueurs du Canadien chez bellemareavocat.ca?
Non, pas encore, non. Ça va pas très bien, notre club. Hein? Bon sang, c'est je sais pas, là. 7-0 contre Dallas la semaine passée. Ouais. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est non. Quoi, là? Moi, je pense que c'est le coach. Je l'aime bien, Martin Saint-Louis. J'irai prendre une bière avec, puis peut-être même deux, mais j'ai l'impression que ça prend un père fouetteur. C'est une gang de jeunes, hein? Ça prend un père fouetteur dans cette équipe-là, puis je suis pas sûr que le fouette de M. Saint-Louis est très bien aiguisé.
Ouais. Ça regarde mal, quoi que l'an passé, il a pas coaché de la mauvaise façon. Ça a quand même bien été. Puis faut pas se fier au Martin Saint-Louis qu'on voit parfois avec dans les médias là, quand il est très prompt avec des questions qui sont très pertinentes. Des fois, ça fait pas son affaire, puis il dit « Oui, je la fais, ma job, si c'est ça ta question », puis il est bien fâché. Mais n'en demeure pas moins que les joueurs du Canadien, on pense à Caden Goulet, qui est souvent blessé, Kirby Dack en fin de semaine, qui est un joueur quand même assez important chez le Canadien de Montréal, qui est encore une fois blessé. Ces gars-là sont faits en mousse d'orteil. Tu sais, quand on met des bas, des fois, on se ramasse avec de la mousse entre les orteils. Là. Ces gars-là sont faits de même. C'est fou à quel point ces gens-là sont fragiles, tandis que d'autres joueurs, eux autres, sont jamais blessés ou quand ils sont blessés, sont en mesure quand même de jouer.
Oui, mais Dak, je pense que c'est une rondelle. Hein? Il a voulu bloquer un tir.
Oui, directement sur le pied.
Écoute, c'est pas Serge Savard puis Guy Lapointe dans le bon vieux temps, il faisait pas ça, eux autres, de bloquer des tirs. Je pense qu'il se tassait. Puis en quelque part, ça permettait aux goalers d'avoir la puck venir un peu plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lancers déviés. Des fois, c'est dévié même par les défenseurs, tes propres défenseurs. Mais il reste que il y a beaucoup de jeunes et moi, je continue de penser que le Canadien a manqué sa shot quand il n'a pas fait venir Patrick Roy, qui aurait été, je pense, le coach tout désigné, surtout pour une gang de jeunes comme ça, parce que Patrick est habitué avec des jeunes. Il a coaché longtemps les Remparts. C'est un gars qui a du caractère, relativement impatient, qui haït perdre. Il faut vraiment que ça paraisse, que le coach n'est pas content qu'on a perdu. Il faut qu'il transmette ça à ses joueurs. Faut qu'il ait honte. Faut qu'il se sente coupable de la défaite. Il faut qu'ils cherchent en quoi ils sont responsables de la défaite parce que c'est un travail d'équipe. Et je pense que Patrick Roy aurait fait une bonne job. Et puis un dénommé Tortorella, là, il est rendu où, là, le bourreau des coachs de la Ligue nationale, là? Je pensais à lui en fin de semaine.
Ouais, je ne l'aurais pas vu chez le Canadien, bien honnêtement, là. Il est rendu à 67 ans, John Tortorella.
Ouais, mais Scottie Bowman a coaché pas mal plus longtemps que ça.
Oui, mais il fait partie de l'ancienne classe de coach. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, en 2025, on fait du John Tortorella et on serait capable d'aller chercher une Coupe Stanley avec des jeunes comme ça.
Oui. Ça prend. Aujourd'hui, il faut être. Faut être ils ont des gros muscles, mais des petits égos des fois. Hein? Faut faire attention. Ou des gros égos, ça dépend comment on le prend. C'est des jeunes, c'est des petites PME, puis ils sont tous fiers, puis ils sont tous contents. C'est les vedettes dans la famille, dans le village, dans le lieu d'origine. Ils arrivent dans la Ligue nationale, ils gagnent des millions. Alors, il faut y prendre avec douceur, semble-t-il. C'est ça que tu es en train de me dire, là?
Ben, c'est une autre façon de coacher, puis tu sais, on le voit, là. Moi, je jase régulièrement avec les coachs de mes enfants, puis faut mettre ça le plus positif que négatif, là. Nos enfants sont pas différents des autres, et quand on regarde les joueurs du Canadien, là, à 20, 21, 22 ans, faut leur faire attention, puis il faut les faire progresser. Puis quand on a quelque chose à leur dire, faut mettre des petites mitaines.
Oui, mais tu sais, c'est la Ligue nationale, Yannick, là, Colin. Ils ne feront pas broyer, là.
Oui, mais
C'est
le
la Ligue
temps.
nationale. Rendu là, tu en as eu des coachs exigeants, puis tu en as eu des épreuves. Puis normalement, rendu là, ils sont supposés être. Je comprends qu'ils sont jeunes, mais en même temps, c'est la Ligue nationale, tu sais.
Parce que Tortorella.
Gretzky est rentré dans la Ligue majeure à 16 ans, tu sais. Puis. Aujourd'hui, c'est plus vieux, mais je ne sais pas. Moi, je pense que le Canadien, là, si tu veux, mon opinion, c'est que il manque un petit peu de tonus au niveau de la tête, au niveau de la direction. En tout cas, c'est mon avis, parce que le talent est là, les chiffres sont là, on a une équipe extraordinaire, mais on a vraiment la plus jeune équipe de la Ligue, tu as raison. Mais j'ai l'impression que ça prend peut-être un peu plus de tonus au niveau de la direction, parce que là, c'est pas juste une défaite, là. C'est 7-0 à domicile contre les Browns, tu sais, puis des erreurs, des affaires qui n'ont pas d'allure, des passes d'un patin, des passes manquées. Ça ressemblait un peu à les Alouettes hier qui perdent le ballon à la ligne des buts, tu sais. Des erreurs, tu dis, Colin, c'est encore possible. Mais en tout cas, peut-être que je suis trop exigeant, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ça gagner, je fais de même.
Oui, ben, je pense que la majorité des gens aiment ça gagner. Quel exemple que je peux vous donner, Maître Bellemare, sur les athlètes aujourd'hui? On a embourgeoisé notre sport, là, en passant. T'sais, si on fait référence aux années 60, 70, 80, les gens pauvres pouvaient jouer au hockey, là. T'sais, parfois même, quand on regarde des vieilles légendes, là, t'sais, je pense à. C'est Maurice Richard, je ne me trompe pas, que le jour même, il déménageait, puis le soir, il faisait une coupe de but au Forum à Montréal. C'est-tu, ça me semble c'est
Maurice Richard. Oui, c'était du part-time. C'était du part-time. Tu avais le droit d'avoir une job dans ce temps-là,
ben,
parce
c'est
que les
ça.
salaires étaient tellement anémiques que ça prenait des sous pour nourrir la trolley, là.
Mais les gars avaient grandi dans la misère, puis pour améliorer leur sort, ils devaient avoir de bonnes performances au hockey. Puis on dirait que comme on a embourgeoisé ce sport-là, ben ça fait en sorte qu'on a des gens qui n'ont pas eu tant de difficultés. Puis, tu sais, travailler pour manger, eux autres, ça leur dit absolument rien. Là. Très, très rapidement, ils ont été encadrés avec des parents qui étaient là, qui étaient assaisis, qui les ont gardés dans une certaine bulle. Puis après ça, ben, ils ont atteint la Ligue nationale de hockey. Ce qui fait en sorte que des fois, ben, après une défaite, un peu comme Dobesch, ben, ça pleure. Parce que même s'il a eu réalisé une belle performance, ben, il n'est pas content d'avoir perdu puis il pleure. C'est rendu fragile, nos jeunes de 20 ans, là.
Ben, c'est embourgeoisé dès la base, Yannick, parce qu'aujourd'hui, ça coûte tellement cher jouer au
Ben
hockey.
oui.
L'équipement, les inscriptions, le gaz pour se rendre à l'aréna, les petits gugus, les tournois à l'extérieur qui exigent souvent que les parents manquent quelques jours de travail pour se déplacer un peu partout en province. Parce que ce qui est le fun des tournois, c'est pas quand tu traverses la rivière, là, c'est quand tu fais 2-3 heures de route puis que tu vas dans une région que tu connais pas. Alors, moi, je l'ai vécu. J'ai fait 25 ans de hockey mineur avec mes enfants, puis c'était comme ça, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, ça coûtait cher, le hockey, surtout quand tu as un goaler là, à habiller. Là, juste les patins, ses yeux de la tête, c'est quasiment le prix de l'équipement pour un joueur ordinaire. Alors, ça coûte très cher. Si tu es sur l'aide sociale ou sur le chômage ou que tu en arraches financièrement, tu n'as quasiment pas les moyens d'envoyer ton enfant au hockey, là. Puis s'il joue dans le double lettre, mais là, ça prend un équipement un petit peu plus sophistiqué, il va te demander un bâton de 400-500 $, etc. Alors, c'est embourgeoisé dès la base. Alors, ils grandissent dans un univers un peu feutré, matériellement parlant. Ils viennent de parents qui sont polis, puis bien éduqués, puis etc. Alors, effectivement, ça a changé. Il n'y a pas beaucoup de misère dans notre sport national. Etc. Mais je continue de penser que ça prend un petit peu plus de tonus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui manque dans cette équipe-là, mais j'ai l'impression qu'on vit un peu comme dans un vieux film, un peu comme l'année passée. C'est sûr qu'on a quand même quelques bons scoreurs, mais à 7-0, il n'y a personne qui s'est manifesté pour participer au pointage. Hein. Ça a marqué, ça, j'ai l'impression. Là. Puis là, Boston en fin de semaine, c'est des matchs à domicile. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, on va avoir encore plus de temps pour s'intéresser au hockey parce qu'on n'a plus de football, on n'a plus de baseball. Fait que là, on va être hockey full pin bien sûr, la NFL le dimanche et quelques jours de semaine.
Bon. Avez-vous hâte d'avoir votre piastre québécoise, Maître Bellemare? Parce que là, advenant le cas où PSPP réussit à créer la souveraineté, ben on s'en va sur un 10 ans ou 15 ans où on veut amener notre propre monnaie québécoise. C'est ce qui nous a été annoncé en fin de semaine au congrès du Parti québécois. Je parlais avec Pascal Paradis, député péquiste dans le secteur de Québec ce matin. Puis ce qu'il me disait, c'est que le plan est très clair et que les Québécois doivent se considérer chanceux d'avoir un Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut mettre ça clair dès le départ. Je vais vous dire juste une affaire, bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce que Paul Saint-Pierre Plamondon veut amener, c'est la première fois que je vois une démarche en ce sens, une démarche très rigoureuse, peut-être parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais de la façon dont c'est fait actuellement, je pense que les gens qui aiment bien le PQ sont très gâtés, là.
Ben c'est pas mauvais qu'il arrive avec une idée comme ça. Moi, je trouve que c'est bon parce que c'est l'automne. Ben l'automne, presque l'hiver quand même, novembre. On a le temps de parler de ça. L'Assemblée nationale, ça amène un sujet différent. Puis c'était dans le cadre du Conseil national du PQ qui a amené ça. Alors, ben il n'y a pas beaucoup de surprises là-dedans. Yannick, si les Québécois votent oui à la souveraineté, il y a un choix à faire à savoir si c'est la monnaie canadienne ou une autre monnaie étrangère ou bien de monnaie québécoise avec une banque centrale québécoise. Alors, il amène son point de vue par rapport à ça, mais ça ne règle pas la question fondamentale qui est est-ce que les Québécois sont d'accord avec la souveraineté? Mais la question de savoir si ça va être une monnaie québécoise éventuellement ou une monnaie empruntée d'un autre marché financier, ben moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles là-dedans. Là. Je m'y attendais, mais la nouvelle, finalement, comme tu dis, c'est qu'il arrive avec cette proposition-là avant le temps, donc il met carte sur table et il dit « voici notre plan ». Ça fait partie de son livre bleu, là, sur la souveraineté. Donc, il amène des éléments. Puis éventuellement, il va arriver avec le service militaire dans un Québec souverain, ce qu'il va y en avoir un, ce qui va être obligatoire, comment on va gérer la question de l'armement, la question de la succession d'État aussi, qui est un élément important. En cas de souveraineté, ben oui, tu as tous les revenus, mais en même temps, il faut que tu payes une partie de la dette du pays d'origine.
Exact.
Alors, comment on va régler la question de la dette, comment on va régler la question des actifs fédéraux en sol québécois, les bases militaires, Radio-Canada, tous les établissements fédéraux. Tu sais que même à Québec, les plaines d'Abraham appartiennent au fédéral, et même le Parlement est construit sur un terrain qui appartient au fédéral. L'essentiel de la colline parlementaire est au fédéral, le manège militaire, tout ça. Alors, il y a quand même des questions qui se posent, puis ça, il va falloir qu'ils nous disent de quelle façon il entend gérer ce qu'on appelle la succession d'États. Tous les États qui deviennent souverains doivent régler la succession d'États, c'est-à-dire déterminer avec le pays d'origine comment les actifs vont être partagés et comment les dettes vont être payées.
Parce que je
Euh,
regardais
parce que
les
le
critiques.
Canada, c'est un pays endetté, hein? On en a, il y a
Oui.
80 milliards dans une seule année. Il y a des gens qui me disaient la semaine passée, ouais, mais le déficit de Carney, là, ça s'ajoute sur la carte de crédit. C'est-à-dire que oui, mais c'est pour payer l'épicerie. Les gens ne se rendent pas compte que le 80 milliards de dettes, c'est pour une seule année. C'est pas pour 25 ans à venir, là. C'est pour une seule année d'opération. Alors, le Canada est un pays endetté. Il va falloir éventuellement passer à la caisse si jamais les Québécois votent oui. Évidemment, la question se pose. J'imagine que Paul Saint-Pierre Plamondon va nous arriver avec différentes réponses à ces questions-là au cours des prochains mois d'ici à l'élection.
Mais donc, il détermine ce sera quoi la souveraineté. Moi, je trouve ça très courageux, honnêtement. Je ne voterai pas pour le Parti québécois demain matin, là, mais je trouve ça très courageux de le faire, alors que quand on regarde les appuis pour la souveraineté au Québec actuellement, s'il y avait un sondage demain là, de la population, ce serait autour de 40 % là, tu sais, puis ça a jamais été au-dessus de 40 % depuis un bon bout. T'sais, si on était autour du 50-50, bon, peut-être qu'on y va-tu pareil, mais j'ai l'impression qu'ils vont frapper un mur. Parce que s'il y avait des élections demain matin, c'est le PQ qui passerait. Puis là, de savoir que dans la première année du mandat ou dans le mandat, tiens, on va y aller avec la question sur la souveraineté, je trouve qu'ils vont très, très vite. Mais bon, ça, c'est mon commentaire. Maître Bellemare, vous m'avez souvent parlé des petites créances. Vous m'avez jamais dit que c'était la meilleure invention depuis le pain tranché, là. Mais vous m'avez dit, Yann, c'est une bonne solution pour les gens qui veulent réclamer en bas de 15 000 $. Ben, les petites créances, c'est bien. Maître Bellemare, je regarde les délais d'attente actuellement pour les petites créances. Ça n'a plus de sens, là. Ils sont incapables de fournir. On parle de Ville de Laval en 2025. C'est 1275 jours d'attente.
Ah, c'est
Longueuil,
3 ans et demi, ça.
1141 jours. Québec, 970 jours. Montréal, 418 jours. La cible du ministère de la Justice, Maître Bellemare, pour ce qui est des petites créances, pour la fermeture d'un dossier, c'est 300 jours. C'est comme en santé, finalement. On n'est pas capable. On n'est pas
Ouais, sauf
capable.
qu'on n'a pas, sauf qu'on n'a pas au téléjournal le soir, Yannick, des images de gens sur les civières qui souffrent et des salles d'urgence encombrées en justice. On n'a pas ça. T'sais, les gens sont chez eux. Fait qu'on n'a pas d'images de gens qui font la file en attendant Monsieur le juge le matin
Ouais.
au palais de justice de
Non, je
Montréal
comprends.
ou au palais de justice de Québec. Mais il reste que ces chiffres-là sont complètement alarmants. Ça demeure quand même un indice que les petites créances, malheureusement, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est populaire. Les gens y vont aux petites créances. S'il y a des délais de 3-4 ans dans certaines régions, c'est parce que les gens y vont. Parce que si les gens n'y allaient pas, on n'aurait pas de délai comme ça. Mais ça serait peut-être intéressant de comparer ces chiffres-là avec les chiffres qui existent en Cour du Québec pour les procès réguliers avec des avocats, plus que 15 000 $. Parce que les petites créances, c'est entre 0 et 15 000. 15 000 et plus, c'est la Cour du Québec, Chambre civile. Parce que les petites créances, ce n'est pas une cour, c'est une division de la Cour du Québec, une sous-division de la Chambre civile de la Cour du Québec. Donc, c'est un juge de la Cour du Québec qui entend les causes. Mais aux petites créances, il n'y a pas d'avocat, ni d'un bord, ni de l'autre. Et c'est le juge qui gère tout ça et qui dit, ben ça, c'est à ton tour à parler, puis c'est à ton tour à parler, puis tel document, ça veut dire quoi? Puis c'est un juge de la Cour du Québec, compétent, qui rend un jugement comme si c'était une cause avec des avocats. Mais compte tenu qu'il n'y a pas d'avocat, on a voulu faire quelque chose qui était moins coûteux, qui était plus rapide. Mais il y a une grosse popularité. Et effectivement, le ministre Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, depuis quand même plusieurs années, a mis en place un paquet de mesures, de la conciliation, la médiation pour essayer d'amener les gens à s'entendre. Ça fonctionne dans certains cas, mais semble-t-il que ce n'est pas encore assez pour rendre ces délais-là acceptables. Moi, je pense que quand tu dépasses un délai de 6 mois, pour au moins une audience avec un mois ou deux pour une décision à être rendue, parce que c'est souvent des dossiers assez simples qui peuvent se régler par un jugement assez court, on a véritablement un problème. Puis là, c'est le problème d'accès à la justice. Et ben, j'ai hâte d'entendre le bâtonnier du Québec nous parler des délais aux petites créances. Peut-être que ce serait à lui à dire au gouvernement quoi faire pour améliorer ça, parce que le barreau du Québec est censé être là pour l'intérêt public. Mais de ce temps-là, il s'occupe de blâmer le gouvernement de la CAQ pour son penchant autoritaire plutôt que de s'occuper des dossiers des petites créances. Alors moi, si tu veux mon opinion, M. le bâtonnier devrait s'occuper des délais de cour qui sont une plaie sociale beaucoup plus que de faire la morale à un gouvernement qui est quand même, ben, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, élu majoritairement et démocratiquement au Québec. On a beau pas aimer Legault, il reste qu'il y a quand même quelques... quoi, 85, 90 députés. Il en a perdu quelques-uns, là, mais il est quand même largement majoritaire. Alors, le bâtonnier du Québec, là, il devrait s'intéresser aux délais de cour, mon cher Yannick. C'est ça qui intéresse le monde, là,
Ouais.
fondamentalement.
Donc, pour ce qui est des délais avant l'ouverture du procès, je sais pas si vous appelez ça la comparution peut-être,
Avant l'audience, là.
avant l'audience, à Montréal, c'est 2025, c'est 418 jours. Et après ça, ben, vous avez votre audience. Et par la suite, à Montréal, vous devez attendre en moyenne 362 jours avant l'obtention d'un jugement par défaut en cours.
Oui, ça n'a pas de
Donc, ça
bon sens.
s'accumule.
Ça n'a pas de bon sens. Et au tout début, quand les petites créances ont été créées, parce que c'est une grande avancée du gouvernement de Bourassa, ça, on revient loin en arrière, là. C'est Jérôme Choquette qui était ministre de la Justice. C'était lui qui était ministre de la Justice à la crise d'octobre en 70. Puis il était aussi, je pense que c'était en 73, 74, des petites créances que ça a été fondé. Il y avait eu à l'époque une très, très solide opposition du barreau du Québec parce que le barreau n'acceptait pas qu'il n'y ait pas d'avocats aux petites créances. Il disait ça prend des avocats partout. Et le gouvernement a gagné, ça a été contesté, puis le gouvernement a gagné sa cause. Et le Code de procédure civile a pu finalement introduire le concept de procès sans avocat, en autant que c'est d'un côté comme de l'autre, précisément parce que ça favorisait l'accès à la justice. Et là, on a augmenté, bien sûr, le montant graduellement. Ça a été 3 000, ça a été 10 000, ça a été 15 000. Et là, j'ai l'impression que ça va rester longtemps à 15 000 parce que si le gouvernement augmentait les petites créances à 20 ou à 25 000, il y aura encore plus de monde. Alors, c'est probablement ce qui fait que ça reste à 15 000 parce que ça fait plusieurs années que c'est à 15 000. Et moi, je vais te dire que dans un certain nombre de dossiers au bureau que j'ai, des cas de réclamation de sommes d'argent. Je sais pas, moi, un mécanicien qui a scrappé l'auto, une poursuite contre un assureur qui ne veut pas payer une indemnité, une chicane de voisin. Souvent, les pertes sont de 20, 22, 25 000. Il m'est arrivé souvent de recommander aux clients de diminuer à 15 000 et d'aller aux petites créances pour sauver des frais, pour pas que ça coûte plus cher d'avocat que ce que ça va y rapporter. Alors, ça demeure quand même, dans bien des cas, la solution, les petites créances. Quoique bien imparfaite, mais dans certains cas, je pense que c'est l'endroit où il faut aller. Il faut comprendre aussi qu'il y a des succès en conciliation, puis qu'il y a des fois des règlements. Des fois, il y a des gens qui vont payer la perte, ou il y a des gens qui vont s'entendre finalement en cours de route et qui vont faire ce qu'on appelle un règlement hors cour. C'est pas tout le temps des causes qui vont aller jusqu'au bout. Mais les chiffres que tu me donnes, évidemment, ça donne froid dans le dos, puis ça montre bien que notre système est
Ouais.
malade et peu
Maître
efficace.
Bellemare, pourquoi c'est si long? Parce que là, le juge entend l'audience, il entend les deux parties. Qu'est-ce qui fait que c'est si long à rendre son verdict? Pourquoi il pourrait pas, je sais pas moi, prendre trois audiences de moins par jour, puis rendre son verdict le lendemain, exemple? Qu'est-ce qui fait en sorte que 300 jours plus tard, il va rendre son verdict? Ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est vrai. Je pense que le délai avant de rendre une décision, là, ça me surprend ce que tu me dis là et j'ai pas de raison de remettre ça en question. Mais effectivement, il y a des, c'est pas toujours des dossiers très compliqués. Il y a des fois que c'est très simple. Mais il y a des dossiers, des fois, qui demandent une certaine analyse. Moi, j'ai vu des jugements qui venaient de la division des petites créances qui avaient 15-20 pages, là. C'était quasiment des romans, là. C'était, peut-être ça aurait pu se régler autrement par deux, trois pages, un peu plus écourtées, un peu moins motivé pour faire en sorte que le jugement sorte plus rapidement. Ça, c'est évidemment, c'est chaque juge qui décide de la longueur du délibéré et de la longueur de son jugement. Effectivement, des fois, on pourrait peut-être faire un peu plus court.
Moi, je me souviens pas de ce que j'ai fait v'là 300 jours.
Oui, effectivement.
Me demande des fois comment ils font pour se souvenir de la cause. Je comprends qu'ils prennent des notes, là, mais des fois, ça doit être assez compliqué. Prochain sujet, Maître Bellemare. Je parlais avec Guillaume Bouvrette, qui est le représentant du syndicat des professionnels et professionnelles du Québec, parce que, il y a eu une petite sortie en fin de semaine. On a appris que le gouvernement veut que les employés de l'État aillent à job 3 jours en présentiel plutôt que deux. Et M. Bouvrette, ce matin, était vraiment pas content. Moi, je lui ai fait une petite remarque, là, bien honnêtement. Il mentionne dans sa déclaration, M. Bouvrette du syndicat, que le gouvernement poursuit son sabotage et fragilise la santé psychologique de son personnel. On parlait de la santé physique là, des joueurs du Canadien qui étaient faits en mousse de bas, là. Nos fonctionnaires sont-ils faits en mousse de bas aussi, là? Si on leur fait rentrer à job une journée de plus, ils vont être fragilisés psychologiquement. J'ai invité
Ouais.
M. Bouvette à changer ses mots, puis non, lui, il a dit qu'effectivement, ça pouvait fragiliser la santé psychologique de son personnel.
Ouais, les syndicats sont en colère, Yannick, au Québec, là. Ils sont pas contents parce que la loi 14 qui s'en vient avec les restrictions au niveau du droit de grève, dans le contexte où la population, la sécurité, la santé, le service essentiel, tout ça avec le ministre Boulet qui s'en vient, les cotisations syndicales, ils sont pas contents et ils ont devant eux un gouvernement fragilisé avec des sondages anémiques avec la CAQ. Alors, ils pensent qu'ils ont beau jeu pour rentrer dans le gouvernement pour à peu près n'importe quoi. Moi, je constate pour écouter la télé et la radio assez souvent, qu'il y a un déferlement de publicité commerciale. Je sais pas combien ça leur coûte, Yannick, là. C'est certain que ça fait l'affaire des diffuseurs, là, mais je sais pas combien ça leur coûte, là, pour mettre en onde des pubs pour dire que le gouvernement de la CAQ est tout croche, puis que le gouvernement de la CAQ menace nos droits fondamentaux, puis menace la liberté syndicale, puis menace ci, puis menace ça. Mais c'est palpable, là. Cette publicité de plus en plus abondante et le ton qui monte, les termes utilisés, le gouvernement veut nous détruire, le gouvernement veut nous saboter, etc. Mais en tout et moins, là, 3 jours par semaine au bureau, ben moi, je trouve que c'est un privilège de pouvoir travailler à l'extérieur de chez toi 2 jours par semaine. J'aimerais ça, moi, travailler 2 jours par semaine de chez nous, au bureau, là, les secrétaires, les filles, ils rentrent pas 2 jours par semaine. Il n'y a pas de télétravail. Alors, je comprends que c'est des professionnels, mais en même temps, de un, quand t'es valet, t'es pas roi, là. Il y a toujours un droit de gérance au Québec. C'est pas parce que c'est le gouvernement qui a pas le droit de bosser. On le blâme à partir des résultats qu'il obtient. On le blâme à partir des chiffres qu'il nous donne, de la rentabilité, de l'efficacité, de la productivité de l'État québécois. Alors, le gouvernement a décidé qu'il serait plus productif s'il surveillait ses soldats, s'il y avait 3 jours par semaine au bureau. Je trouve que c'est tout à fait normal. Puis moi, si j'étais patron, c'est ce que je ferais aussi.
Parfait. Moi, je suis
Alors,
entièrement
il est où le
d'accord avec vous.
scandale, là?
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais si je me fais l'avocat du diable, si je me fais l'avocat du diable, je suis entré au gouvernement chez les professionnels, v'là 6 mois, Puis les conditions de travail, c'est 2 jours à la job, 3 jours chez nous. Je considère ça comme acquis, M. Bellemare. À partir du moment où l'employeur change la donne, ben là, j'ai le droit de signifier mon mécontentement.
Oui, mais là, le gouvernement a décidé de changer ça, puis c'est pas un acquis. Il y a rien qui prévoit. À ma connaissance, puis je suis assez ferré en droit du travail, là, je ne pense pas qu'on ait un acquis, que ce soit négocié. Il y a eu une pandémie, il y a eu du télétravail qui s'est développé. Il y en avait déjà avant, il y en a un peu plus après. Mais le gouvernement a quand même le droit de gérer tout ça. Et personnellement, je te le dis, là, je considère que c'est un privilège de pouvoir travailler 2 jours par semaine à la maison et 3 jours au bureau. Mais le fait de travailler au bureau, ça permet de voir les gens, ça permet de développer des relations, ça permet de faire des réunions qui sont certainement un peu plus productives, ça permet de se prémunir contre le vol de temps aussi, les gens qui disent qu'ils travaillent puis qu'ils travaillent pas. Et moi, je pense que pour l'employeur, il veut garder ses brebis pas trop loin. Puis c'est dans n'importe quelle entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le privé, ça fait longtemps que le présentiel est revenu pour du temps plein. Alors, à moins qu'il y ait une disposition de la loi ou d'une convention collective qui oblige l'employeur à maintenir le télétravail tant d'heures par semaine ou tant de jours par semaine, l'employeur a pleine latitude pour en décider. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Je suis un employeur et je me demande comment les employeurs, surtout au niveau de l'État québécois, peuvent, les institutions québécoises peuvent se permettre d'avoir des employés qui sont chez eux quasiment à temps plein, là.
Il y a aussi le fait qu'il faut que l'économie vire, là. On va se le dire. Quand les fonctionnaires sont à la maison, les fonctionnaires ne sont pas au restaurant sur l'heure du midi. Ils ne dépensent pas pour ce qui est de l'essence au centre-ville. Il y a ça aussi, là. C'est pour être un bon citoyen corporatif, c'est intéressant d'avoir une journée de plus avec des fonctionnaires au centre-ville. Le problème étant que, puis ça, on n'a pas le choix de l'accorder à M. Bouvrette, là. Tu sais, le gouvernement fait tout en son pouvoir. En fait, les gouvernements font tout en leur pouvoir pour diminuer le trafic. C'était une belle façon de diminuer le trafic en laissant les fonctionnaires qui peuvent le faire travailler à la maison.
Oui, je pense que ça, c'est, on parle plus des conséquences que des raisons qui justifient le travail à domicile. Tu as raison, c'est sûr que ça a des conséquences, surtout pour des grands centres-villes. Nos capitales régionales, c'est la même chose. Partout où il y a des services, que ce soit Rimouski, que ce soit Chicoutimi, que ce soit Gatineau, que ce soit Sherbrooke, mais surtout Montréal et Québec, où là, il y a des centres administratifs importants, les sociétés d'État sont là. Mais la plupart des employeurs privilégient le présentiel et je les comprends. Ils veulent savoir où sont les gens, ils veulent favoriser les rencontres. Il y a des choses qui doivent se faire en présentiel. Et le principe, c'est le présentiel, mais dans certains cas, on fait du télétravail et que le gouvernement décide 3 jours, c'est quand même 60 % du temps, mais il y a 40 % du temps qui est quand même laissé à domicile. Je trouve que c'est un privilège. Et plutôt que de se plaindre, les syndicats devraient considérer que c'est un privilège et s'en satisfaire. C'est ma position.
La guerre entre Québec et ses deux groupes de médecins, est-ce que ça va se régler cette semaine, Maître Bellemare? Est-ce que les négociations vont comme vous pensiez qu'elles allaient aller? Parce que sincèrement, les gens, le public, bien qu'on ait de la difficulté avec notre système de santé, semble s'être rangé derrière les médecins. Est-ce que c'est la peur qui fait en sorte que les gens sont rangés derrière les médecins? Ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que Québec, Christian Dubé, a perdu son combat là, dans les médias.
Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des sous-questions qui devraient être posées dans les sondages. Êtes-vous favorable à la position des médecins? Dire oui, mais là, avez-vous un médecin de famille? Tu sais, 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, est-ce qu'ils sont favorables à la position des médecins s'ils n'ont pas de médecin de famille? Parce que c'est sûr que dans leur milieu propre, les médecins sont bien sûr appuyés. Ceux qui ont des médecins de famille, ceux qui ont bénéficié de soins récemment, ils sont certainement satisfaits. Mais je pense qu'il y a un lien avec ça. Mais le 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, qui sont pas capables d'avoir un spécialiste avant 15 ou 18 mois, ils sont probablement dans la colonne des gens qui appuient plutôt le gouvernement. Le fait que M. Dubé ne participe pas aux prochaines rencontres, mais que ce soit Mme Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor, je trouve que c'est une bonne idée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un désaveu formel par rapport à M. Dubé, qui demeure le ministre de la Santé, mais il faut essayer de trouver des variantes, il faut essayer de trouver des nouveaux interlocuteurs crédibles. Le Conseil du Trésor contrôle quand même la bourse, le portefeuille des Québécois, et je trouve que c'est une option qui est correcte. Mais il y avait en fin de semaine une chronique très intéressante de Rémi Nadeau dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, qui disait il faut finir la job. Il disait il faut que les médecins, que le gouvernement finisse la job. Il donnait des chiffres. Écoute, je ne les ai pas vérifiés, là, mais je les donne quand même parce qu'ils sont pertinents. Il disait que les médecins québécois, les généralistes, gagnent 24 % de plus qu'en Ontario. Les spécialistes gagnent 32 % de plus qu'en Ontario. En Ontario, chaque médecin pose 3 418 actes, alors qu'au Québec, c'est 2 723. Donc, il y a 26 % de plus d'actes médicaux posés en Ontario. Et notre ratio par 100 000 habitants, il y a 122 médecins pour 100 000 habitants au Québec, puis en Ontario, c'est 118. Alors, ce que Nadeau dit, c'est finalement, oui, on parle beaucoup de l'Ontario, puis les médecins disent, je m'en vais en Ontario, je m'en vais en Ontario, mais il y a beaucoup de menaces. Il y a beaucoup de médecins qui disent je vais ou je pense à ou j'ai postulé pour un transfert en Ontario, etc. Mais dans les faits, ce que Rémi Nadeau nous dit, c'est que c'est plus un bluff qu'une réalité. Lui, il pense que les chiffres ne permettent pas de constituer des incitatifs assez sérieux pour que les médecins quittent le Québec pour l'Ontario. Mais ça ne règle pas le problème, tu as raison. C'est sûr qu'il faut que la question des médecins soit réglée au plus vite. Là, on s'en va tranquillement pas vite vers décembre, vers les fêtes, et c'est sûr que d'ici la fin de la session, il faut que ça soit réglé. Moi, je m'attends à ce qu'on ait un dénouement, là, quelque part, probablement vers la fin novembre, parce qu'il va falloir régler tout ça. Mais en même temps, le gouvernement doit quand même garder le cap sur une certaine productivité, une certaine imputabilité. Il faut augmenter les ratios, les actes médicaux posés au Québec. On a un système de santé qui ne marche pas. Puis si tu demandes aux Québécois, êtes-vous satisfait du système de santé, les gens vont te dire non massivement parce qu'il ne marche pas, notre système de santé. Il n'est pas accessible. Il y a trop de monde, même des gens qui sont porteurs de maladies chroniques sévères. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de médecin. Je le sais, moi, au bureau, je défends des victimes d'accidents puis des malades. Puis j'ai peut-être un client sur trois qui n'a pas de médecin. Puis il est super malade, puis il n'est pas capable de travailler. Alors, c'est une catastrophe. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut trouver une solution. Mais M. Dubé arrive avec une hypothèse compliquée que la plupart des gens ne sont pas capables de comprendre. Et même M. Dubé est en manque de mots, là. On n'a pas eu une grosse, grosse pédagogie de sa part au niveau de la mécanique qu'il entendait mettre de l'avant. Mais il faut trouver une solution. Puis j'espère que le gouvernement va quand même garder le cap sur un objectif de productivité et de performance au niveau médical pour qu'on augmente le nombre d'actes et qu'on augmente le nombre de Québécois pris en charge, là. Ça, c'est majeur, là.
Parce que le narratif des médecins au Québec, c'était non à la médecine fast-food. Mais quand on regarde les chiffres qui sont disponibles dans la chronique de Rémi Nadeau, on se rend compte qu'il y a plus d'actes qui sont commis par les médecins ontariens que par les médecins québécois. Donc, le narratif des médecins québécois tombe avec la médecine fast-food en disant, ben là, si vous nous obligez à faire de la médecine fast-food, on va aller en Ontario. Parce qu'en Ontario, visiblement,
La médecine, ouais, mais ça, c'est.
les listes sont encore plus petites, les listes d'attente sont encore plus petites en Ontario que celles du Québec. Les médecins de l'Ontario, comme vous le dites, puis comme Rémi Nadeau le mentionne en fin de semaine, travaillent plus que les médecins québécois.
Oui, peut-être, effectivement, mais c'est ce que Nadeau nous dit. Mais en même temps, il y a peut-être moyen de. Tu sais, si tu as un patient que tu peux régler son sort en 10 minutes plutôt que 20 minutes, plutôt que jaser de la dernière partie de chasse ou de la dernière raide de skidoo, je ne sais pas, là. Je sais pas ce qui se passe dans les bureaux de médecins, mais je sais que moi, au bureau, c'est assez efficace. On donne des délais assez précis pour les consultations et on est capable, avec l'expérience, de régler beaucoup de dossiers. On se souvient des médecins. Il y en a plusieurs qui prennent leur retraite, qui ont 65, 70 ans actuellement. Ils ont des line-up là, de 3 000 à 4 000 patients par médecin. Alors qu'aujourd'hui, on voit des affaires de 1 500, 2 000 patients. Alors, est-ce que les médecins dans les années 80 et 90 faisaient du fast-food? Non, même s'il y avait 3 000, 4 000 patients par médecin. Les médecins les plus vieux, là, ceux qui ont été les vrais performants, et qu'on est en train de perdre tranquillement pas vite en faveur de la retraite. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une médecine fast-food qu'on avait au Québec. Alors, tu peux avoir 3 000, 3 500 patients, comme c'était le cas il y a 20 ans pour la plupart des médecins, puis sans faire de la médecine fast-food. Puis le fast-food, c'est quoi? C'est la performance, semble-t-il. Si on regarde les line-up qu'il y a d'un McDo puis d'un Burger King, ça a l'air que le fast-food, c'est pas nécessairement un défaut.
Mais parce que, tu sais, j'ai jasé régulièrement là, dans les dernières semaines à des médecins, à Maître Bellemare, puis tu sais, on mettait de l'avant des fois des légendes urbaines qu'on entendait, tu sais, des patients qui arrivent dans le cabinet du médecin en disant, ben moi j'ai trois problèmes, et le médecin disait, ben on va commencer par le premier, puis les deux autres, vous allez revenir plus tard, ce qui faisait en sorte que la liste des patients continuait à s'étirer, la liste des actes à poser continuait à s'étirer. Puis il y a un médecin qui m'a dit, Yann, c'est assez simple, c'est que si j'ai une trentaine de rendez-vous dans ma journée, je commence à me concentrer sur les petits bobos de tout le monde, je ne réussirai pas à me rendre au 30e, puis le 30e a peut-être le cancer. Fait que
Voilà.
lui, il dit, moi, je vais y aller par ordre de priorité, fait que je vais essayer de régler ton plus gros problème, puis tu reviendras dans 2 semaines ou dans 3 semaines pour les plus petits problèmes, parce que la 30e personne que je veux passer aujourd'hui, qui va être à 21h ce soir, ben si elle a le cancer, puis si ça continue, puis ça croît son cancer, ben c'est dangereux pour sa vie. Faut que je la rencontre aujourd'hui. Je peux pas remettre son rendez-vous. Fait qu'il y a quelque chose de logique à tout ça. Les primes, bon, quand c'est la première fois pour les médecins spécialistes, quand c'est la première fois que tu rencontres le patient, ben c'est sûr, Maître Bellemare, que vous devez passer plus de temps avec cette personne-là. Vous ne le connaissez pas, le patient. Le temps de vérifier le dossier au grand complet, de recommencer toutes les démarches. Tu sais, il voulait enlever ces primes-là. Là, finalement, ils ont décidé qu'ils ne les enlevaient plus. Ça, c'était quelque chose qui avait quand même une certaine logique là, pour les médecins spécialistes, là.
Oui, mais comme je te dis, on avait beaucoup de médecins là, dans les années 2000, au début des années 2000, et même moi j'en ai connu plusieurs, surtout dans les régions. Thetford, Roberval, des médecins 3 000, 3 500 patients qui sont plus capables d'en prendre, mais il y avait beaucoup de médecins québécois qui étaient des généralistes surtout qui étaient à cette hauteur-là. Et je ne sais pas dans quelle mesure on forme les médecins en fonction de certaines règles au niveau de la gestion d'un bureau. L'idée m'est venue à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on apprend? Parce que moi, je me souviens, quand j'ai fait mon cours de droit au barreau, on n'avait pas de cours sur la gestion, comment être performant dans un bureau d'avocat au niveau des consultations, comment ça marche, à quelle heure tu commences, comment tu finis, combien de temps tu donnes, comment tu questionnes le client, etc. Je ne sais pas si dans la formation des médecins québécois, on leur montre comment travailler de façon efficace et de façon performante. Ce n'est pas évident. De sorte qu'il y a peut-être des médecins qui mettent beaucoup de temps puis qui pourraient faire un petit peu plus et rencontrer plus de patients tous les jours. Mais en tout cas, le conflit avec les médecins nous aura au moins permis, Yannick, de connaître un petit peu plus là, le monde secret des bureaux de médecins, en dehors de ce que nous, on a pu vivre comme relation avec les médecins sur le plan personnel. On voit qu'on nous explique un petit peu plus comment ça marche, comment ça fonctionne, non seulement dans les hôpitaux, mais dans les cliniques. Et ça, c'est pas mauvais de pouvoir avoir cette discussion-là avec le corps médical actuellement.
Si François Legault tasse Christian Dubé, est-ce que c'est un désaveu à l'égard de Christian Dubé qui travaille extrêmement fort dans ce dossier-là? Parce que le représentant des médecins spécialistes l'a clairement dit sur les ondes de RDI, il y a une perte de confiance envers Christian Dubé, puis lui veut s'adresser à Mme Durenceau. Mais pour faire avancer les choses, faudrait peut-être qu'il rétablisse le lien de
Ouais.
communication avec Christian Dubé, mais si le premier ministre tasse Christian Dubé, ce serait un désaveu épouvantable.
Ouais, il ne peut pas faire ça, Yannick, c'est impossible. À mon avis, si ça se produit, ça serait que M. Dubé déciderait de quitter, mais je pense qu'il ne le fera pas. Il veut vraiment que sa réforme aboutisse, en tout cas, le plus entièrement possible. Mais écoute, dans le cabinet Legault, là, il y a une poignée de ministres crédibles. Mme Fréchette, Jolin Barrette, Dubé en font partie. Ce sont des piliers. C'est les derniers qui ont vraiment une cote positive dans la population, qui sont crédibles, qui sont respectés. Même Mme Guilbeault a pris toute une débarque. Fitzgibbon est parti. Lionel Carman est parti. Il reste pas beaucoup de monde. Et Christian Dubé, si Christian Dubé partait, moi je pense que ce serait absolument catastrophique. Et là, il atteindrait des niveaux, des niveaux d'appui dans les sondages qui seraient historiquement faibles. Alors, non, et je pense que ce n'est pas dans la personnalité de M. Dubé ni de M. Legault, mais c'est vraiment la réforme Legault-Dubé. On parle de Dubé comme ministre de la Santé, mais c'est l'ancien ministre de la Santé qui s'appelle François Legault, qui est maintenant premier ministre, qui veut réaliser et mener à bien une réforme axée sur la performance des services médicaux au Québec et qui n'a jamais réussi à faire, même dans le temps où il était ministre de la Santé lui-même. Alors, je pense que c'est un objectif. Ils veulent absolument que ça marche. Puis j'ai bon espoir qu'ils vont trouver un compromis.
On va faire une courte pause, Maître Bellemare, si vous le désirez bien. Je rappelle que ce soir, comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca. Dossier de SAHAC, DIVAC, de CNESST, contactez bellemareavocat.ca. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Radio. Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça parle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi. Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parlée en semaine.
À la recherche d'un nouveau nid? Pensez au condo locatif Le Charlie près de la rivière Saint-Charles. Comprend l'eau chaude et Internet ainsi que l'accès au gym, au lounge et à la terrasse. Visitez lecharlie.ca.
Si tu vas à l'événement de réduction d'inventaire d'équipements neufs de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, toi aussi tu pourrais siffler en travaillant.
À partir de maintenant, tes soupers vont changer pour toujours grâce à Alimentation FC. Arrête de courir partout parce qu'on te livre ça directement chez toi. Viande locale et naturelle, disponible dans plus de 300 coupes. Alimentation FC, la viande sans compromis. AlimentationFC.com.
Salut Karine! Est-ce que ça va bien?
Oui, Vincent, mais pourquoi on est aussi rock?
Parce que ça prend une autre en matière que du mordant. Le nouveau Rogue Rock Creek 2026 est arrivé.
Oh, avec son allure robuste, ses caractéristiques tout-terrain et la traction intégrale de série? OK, on repart ça. 3, 4!
Le nouveau Nissan Rogue Rock Creek est maintenant disponible à la location à partir de 1,9% jusqu'à 36 mois.
Inclus réduction fidélité pour propriétaires Nissan admissibles jusqu'au 1er décembre sur approbation de crédit. Les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
C'est le novembre fou chez Sale. Économisez jusqu'à 50% sur une sélection d'articles et découvrez les rabais choc. Trouvez tout pour l'hiver, manteaux, bottes, vêtements et plus encore. Sale, votre destination plein air 100% québécoise.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primés. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Les soirées se rafraîchissent. Enviro Confort vous accompagne avec des solutions complètes. Thermopompe performant, accumulateur de chaleur et même la géothermie pour un confort durable. Profitez dès maintenant de nos promotions spéciales de fin de saison. Vous chauffez encore au mazout? C'est le moment idéal pour faire le changement et obtenir vos subventions avant la date limite. Enviro Confort, certifié choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation à Québec et Lévis.
À la librairie Maison Anglaise, nous offrons les seuls voyages sans bagages, sans stress et sans décalage horaire. Évadez-vous dans Paris avec Emma Donoghue. Voyagez en enfer avec R.F. Kuang ou mangez un sandwich avec Gordon Ramsay. Votre imagination est la seule limite. Achetez local et voyagez dans le monde entier. Pour votre prochain voyage, des milliers de titres et versions audio, anglais et espagnol, vous attendent. La Maison Anglaise à la Place de la Cité ou lamaisonanglaise.com.
Ça, c'est le son d'une Toyota Prius hybride branchable qui utilise le moteur à essence pour une escapade à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est le son de la Prius qui utilise l'énergie de sa batterie pour un dîner à l'extérieur du bureau. Deux extrêmes, une Prius hybride branchable avec jusqu'à 962 km d'autonomie combinée. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Qu'ont en commun un entrepreneur, quelqu'un qui a un grand terrain, puis un agriculteur? Ben c'est tout du monde qui aime ça siffler en travaillant fort.
Et pour travailler fort, ça te prend des équipements à la hauteur de tes attentes. Ça tombe bien, JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, tient actuellement un événement de réduction d'inventaire neuf. Ils font aussi un événement d'équipement usagé. Ils ont toutes les marques. Ils offrent en plus des rabais comptants, du financement, des crédits bail et même des garanties. Fait que si tu trouves pas là, ça veut peut-être dire que tu sais pas siffler. Pour tous les détails, va sur jldlagu.com.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice. Il travaille maintenant pour bellemareavocat.ca. Il nous reste encore quelques minutes, Maître Bellemare. Et dans les dossiers que je voulais aborder avec vous, on parlait de Croix-Gamée à Saint-Barnabé. Bien, dans le secteur Saint-Barnabé Sud, on parle d'un ressortissant algérien qui a un passé trouble, qui avait installé des croix gammées devant son domicile de Saint-Barnabé-Sud pour protester contre la municipalité qui a été expulsée en Algérie jeudi soir. Il est considéré comme un fugitif extrêmement dangereux par l'FBI. Il faisait l'objet d'une tentative d'expulsion du Canada depuis, Maître Bellemare, 2010. Ça faisait 15 ans qu'on tolérait Yahya Media chez nous.
Oui, alors ça nous montre jusqu'à quel point nos services d'immigration sont tout croches puis que nos frontières sont poreuses. Quand Donald Trump dit que le Canada n'est pas crédible au niveau des frontières, de la sécurité, de l'immigration, puis que n'importe quel toubib va rentrer ici avec un dessin terroriste ou un dessin malheureux, malfaisant, va rentrer au Canada sans trop être incommodé. Je pense que là, on en a un bel exemple. Écoute, on parle de Yahya Meda, un ressortissant algérien. Ce gars-là a été... il est rentré au Canada en 98. Il a fui les États-Unis. Il s'est évadé d'un hôpital psychiatrique et est considéré comme extrêmement dangereux selon le FBI parce qu'il était associé au groupe islamique armé. C'est pas des enfants de cœur. Alors, il y a eu, nous autres, depuis 2010, on essaye de s'en débarrasser. Il a été, on lui a refusé l'asile en 2007 pour des raisons de sécurité. En 2007, on s'entend que ça fait presque 20 ans, Yannick, là. C'est quand même long. On a, entre-temps, il y a eu toutes sortes de problèmes avec la justice. Il a été jugé en 2014 coupable de recel, de voies de fait sur un inspecteur de dépanneur, interdit de territoire. Le tribunal administratif du Québec l'a condamné à rembourser 82 000 au Trésor québécois parce qu'il a fraudé l'aide sociale.
Un très bon citoyen canadien.
Non, mais écoute, on n'est pas capable de se débarrasser. D'abord, on laisse rentrer un gars que le FBI considère extrêmement dangereux, ce qui n'est pas normal. On n'aurait jamais dû laisser rentrer ce gars-là. Donc, c'est le premier problème de frontières poreuses pas crédibles. N'importe qui rentre au Canada, même si le FBI le considère extrêmement dangereux. En plus de ça, une fois qu'il est ici, on n'est plus capable de s'en débarrasser. Il multiplie les recours. J'ai pas de raison de penser qu'il a payé bien ben cher ses frais d'avocat. Probablement que... D'ailleurs, la ville de Saint-Barnabé a voulu y faire enlever ses croix gammées. Les croix gammées, là, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est le symbole nazi hitlérien. En 2024, l'électricité a été coupée. La ville de Saint-Barnabé a mis 150 000 $ de frais d'avocat pour y faire enlever ses pancartes. Et le 13 novembre, jeudi dernier, il y a une dizaine de polices puis d'agents frontaliers qui se sont présentés chez eux. Mais Zorak n'était même pas là, il était déjà parti pour l'aéroport. Il s'est présenté avec un certificat médical comme quoi il y avait des problèmes cardiaques. Et finalement, le tribunal n'a pas considéré que c'était crédible. Puis bon, bon débarras. Et le député fédéral du Bloc québécois est complètement découragé. Il s'appelle Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe, appuyé par sa collègue du provincial. Les députés sont découragés, ne savent pas quoi faire. Et finalement, on a réussi à s'en débarrasser. Mais c'est pour te dire, Yannick, que le Canada est un pays où tout le monde rentre, puis il n'y a pas grand monde qui sort. Moi, je dis, il faut resserrer nos contrôles d'immigration, il faut être plus crédible quand les gens rentrent au Canada, il faut être très vigilant par rapport à la question de sécurité nationale. Et quand ça ne fait pas, on devrait avoir un fast track pour les sortir, là. Écoute, il est rentré au Canada en 1998. Ça fait 27 ans. Ça a pris 27 ans pour qu'on puisse sortir un gars que le FBI considérait comme extrêmement dangereux, un passé terroriste important. Puis une des raisons qu'on donne pour expliquer la lenteur du processus, c'est évidemment l'épuisement des recours interminables devant les tribunaux jusqu'en Cour fédérale, mais c'est aussi que on avait de la misère à avoir du gouvernement algérien des informations sur le passé de l'individu et sur le fait qu'il puisse rentrer en Algérie. Alors, tu sais, faut quasiment se mettre à genoux pour demander aux Algériens de reprendre leur caca, là. Et écoute, moi, j'en reviens pas. Je me dis, ça, c'est un exemple, mais là, la presse a fait un dossier, puis d'ailleurs, c'était dans un article de la presse que toutes ces informations-là étaient contenues. C'est la presse qui a fait un dossier en février 2025 pour mettre en évidence le fait que ce gars-là est encore au Canada à cause des Croix-Gamins. C'est comme ça qu'on a su qu'il en était. Ils ont creusé. La presse a fait un excellent travail. Ils ont creusé pour pouvoir nous donner toute l'information qu'on est capable de mettre en onde aujourd'hui. Mais ça montre que, je ne sais pas combien il y en a des cas comme ça là, qui circulent au Canada, là, mais ça montre jusqu'à quel point notre système est déficient. Puis finalement, on est bien bon pour accueillir, mais on n'est pas bon pour sortir, même quand c'est amplement justifié. Et ça, c'est tout à fait inquiétant dans le monde dans lequel on vit, là.
Oui, je me souviens d'un cas particulier. Il y avait eu une intervention policière à Montréal dans un parc et il y avait le jeune Freddy Villanueva qui était dans cette intervention policière-là. Il y avait plusieurs individus qui étaient membres de gangs de rue et finalement, ben, il y a eu Freddy Villanueva qui est mort sous les feux des policiers. Et il y avait le frère de Freddy Villanueva qui a longtemps traîné avec les gangs de rue, qui était une problématique, s'est fait souvent arrêter. Et à un moment donné, on a menacé de le déporter vers son pays natal, le Honduras, parce que il y avait tellement d'accusations contre lui que ça n'avait pas de maudit bon sens. Et le gars avait été demandé de l'aide, Maître Bellemare, chez son député du coin. Et qui était à l'époque le député du coin? C'était Justin Trudeau qui avait accepté de signer un papier comme quoi le frère de Freddy Villanueva méritait de rester au Canada. Patati et patata. Et encore à ce jour, cet individu-là est chez nous, à Montréal. Et c'est un gars qui, je ne sais pas comment il est aujourd'hui, mais avant, c'était pas un bon citoyen canadien. Là.
Ouais, c'est ça. On ne fait pas de vérification. On est une vraie passoire. On a la main sur le cœur et le Canada, surtout le Canada de Trudeau, le père comme le fils, ont mis en place des procédures de cette nature-là. Puis j'ai aucune raison de penser, même si M. Carney nous dit que les contrôles ont été améliorés, resserrés, les frontières aussi, j'ai aucune raison de penser qu'au Canada, il n'y a pas, au moment où on se parle, une quantité importante de gens qui constituent une menace sérieuse à la sécurité nationale. On n'en parle pas. C'est comme je te disais tantôt, on n'a pas de monde qui font la file. Quand on en avait, c'était toujours pour les accueillir dans le temps du chemin Roxham. Mais quand il y a un problème et qu'il faut se débarrasser d'un indésirable ou d'une menace à la sécurité nationale, on a des procédures judiciaires interminables, coûteuses, longues, qui fait en sorte que ces gens-là demeurent au Canada. Et ça, les malfaisants le savent, là. Je peux te dire qu'ils sont bien au courant qu'ici, il y a les chartes, il y a l'aide juridique, il y a les délais de cour, il y a les recours, les contestations. Quand c'est pas suffisant au niveau juridique, on le fait au niveau politique, comme tu le dis. On va chercher Trudeau ou le député du coin qui va dire, ah, c'est un bon gars, il a une famille, il a eu des enfants ici. Ou ben donc, on a des recours médiatiques. Parce que très souvent dans les médias, surtout les médias télé, on voit des familles là, qui se disent, ah oh, ben là, mon fils est un bon garçon, il a fait des niaiseries, mais aujourd'hui, il est correct. Alors, on est d'une grande naïveté. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ouvert à l'immigration. L'immigration, c'est important. C'est un phénomène qu'il faut encourager de façon rationnelle, mais il faut être capable de dire non aussi. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Puis quand on s'aperçoit qu'on a une tâche, il faudrait qu'il y ait un fast track, là, qu'il y ait une procédure expéditive qui nous permette de retourner dans leur pays, là. Des gens comme Yahya Mehad, qui heureusement est parti, est-ce qu'il va revenir? L'histoire nous le dira.
Partir du
Un faux
moment où
nom,
il...
nous.
Partir du moment où tu es reçu citoyen canadien puis
Au
que tu
bord.
n'es pas un bon citoyen, ça devrait être une fast track pour retourner dans ton pays parce que tu contribues pas à cette belle société. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, Maître Bellemare. On reprend ça lundi prochain?
La fin, absolument.
Pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. Passez tous une excellente soirée. Avec Maître Bellemare, c'est lundi prochain. Et sinon, vous et moi, ce sera demain à la même heure. Salut tout le monde. Bye bye.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1 célèbre ses 10 ans avec la Gravel édition 10 ans Boulevard. Une bière blonde lager à 4,4% légère, dorée et ultra rafraîchissante. Brassée par Malco, la brasserie de Charlevoix reconnue pour ses produits de qualité. Une partie des profits des ventes sera remis à la bouchée généreuse pour aider les familles dans le besoin. Procure-toi la Gravel dès maintenant en quantité limitée chez Chaloux, panier extra, à la brasserie Malco située au marché Jean Talon, ainsi que d'autres détaillants de la grande région de Québec. Cheers!
Cette année, simplifiez vos achats des fêtes grâce à la revue Magie des fêtes avec Gladius. Idées cadeaux, nouveautés, conseils et plus. Disponible chez Normandin, IGA ou en ligne sur magie des